Vous aimez la littérature?
Vous auriez essayé de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Essayez de gamberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « La vie solide, la charpente comme éthique du fer » d'un dénommé Arthur Lockman. Alors qui est Arthur Lockman? Arthur Lockman, c'est quelqu'un qui a délaissé ses études de droit et de philosophie pour devenir charpentier. Et en apprenant le métier, il a découvert des gestes, des techniques et une pensée de la matière qui ont transformé son rapport au monde. Alors ce livre est intéressant parce que c'est un récit d'apprentissage qui est plein d'humilité et qui entremêle souvenirs de chantier, réflexions sur le corps, le savoir et le travail aujourd'hui, avec une langue qui est limpide, élégante. L'auteur montre comment la pratique de cet artisanat lui a donné des clés précieuses pour s'orienter dans une époque frénétique. Parce qu'apporter du soin à son travail, c'est déjà donner du sens à son action. Qu'apprendre et transmettre des savoirs anciens, c'est préserver un bien commun. Et que bien bâtir, c'est s'inscrire dans le temps long. La charpente est une éthique pour notre modernité. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, je vais vous en lire tout de suite un extrait, c'est que quelquefois, des ouvrages, même très récents, puisque ce livre est sorti en février 2019, donc très récemment, et il anticipe sur un certain nombre de phénomènes. Il a une très longue digression sur le problème de l'accélération du temps en citant un ouvrage extrêmement intéressant de Hartmut Rosa qui s'appelle « Accélération ». Mais il essaie de voir comment, effectivement, on peut s'intéresser à l'histoire et donc indirectement au patrimoine. Et je trouve qu'en cette période où on a beaucoup et on parle encore beaucoup de ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, je vais vous lire ce texte qui est sorti donc 2 mois et demi avant le grand incendie. Le temps est suspendu parce que dans le temps détemporalisé, on ne peut identifier aucune évolution derrière les transformations de telle sorte que la vie, en raison de l'absence de perspective temporelle d'organisation, apparaît comme une dérive sans but à travers des situations changeantes et donc comme l'éternel retour du même. Cette immobilité du temps vécu individuellement se retrouve dans les temps collectifs qui subissent le même effet de pétrification. Prenons 2 grandes catégories de discours contemporains en matière de rapport au temps. L'urgence de la sauvegarde du patrimoine, le mantra de l'innovation. La première semble inscrire dans le passé, le second dans l'avenir. L'un comme l'autre ne sont que du présent sans durée, farouchement immobile. Le patrimoine d'abord. Avec le culte des monuments, le culte moderne des monuments, un essai paru en 1903, le théoricien de l'art Alois Riegel fut l'un des premiers à s'intéresser à la question de la conservation du patrimoine en ironisant souvent sur ce qui, à cette époque déjà, devenait une nouvelle forme de sacré. La question qu'il pose à l'engouement pour la conservation des monuments est de savoir quelle mémoire est conservée. Pour y répondre, il distingue entre les différentes valeurs des monuments. Restaurer un monument à l'identique, pour préserver sa valeur artistique, c'est effacer les traces du temps qui passe sa valeur historique. Cette distinction des différentes valeurs permet de faire apparaître le caractère éminemment conflictuel de la conservation des monuments qui correspond toujours à un arbitrage en faveur de l'une ou l'autre de ces différentes valeurs. À la fin du XIXe siècle sont apparues les premières controverses sur la restauration du patrimoine reposant sur des conceptions opposées de l'authenticité. D'un côté, John Ruskin, contempteur du culte d'un passé idéalisé, voire purement imaginaire, et partisan de la non-restauration. Ce que l'on nomme « restauration » signifie la destruction la plus complète que puisse souffrir un édifice. Selon ce poète anglais, un monument est un être vivant que l'on doit laisser mourir. L'état de ruine fait partie de son cycle de vie et c'est le respect de ce vieillissement naturel qui assure la plus grande authenticité de l'édifice. De l'autre côté, Viollet-le-Duc, tenant d'une restauration interventionniste de la splendeur originelle, état de complétude et d'unité de style qui, selon les termes de l'architecte lui-même, peut n'avoir jamais existé à un moment donné. C'est le cas de la nouvelle grille entièrement dorée du château de Versailles. Cette restauration est sans doute justifiée par un principe d'unité de style, peut-être aussi par une quête du spectaculaire propre à satisfaire les touristes. Elle n'a en tout cas aucun fondement historique car cette grille n'avait jamais été dorée jusque-là. La tendance actuelle est plutôt à combiner ces 2 approches pour éviter les écueils propres à chacune d'entre elles. Donc je vous conseille, pas uniquement pour cet extrait, de lire ce livre qui est attachant, qui est d'une grande sensibilité, d'une grande poésie, entre le corps et la matière, entre l'esprit et le corps. Et donc je conseille effectivement aussi pour l'extrait que je viens de vous lire, d'avoir une réflexion posée, et notamment si vous êtes plutôt un adepte de la restauration et de la réplication de ce que l'on doit faire à Notre-Dame de Paris, ou éventuellement la transformer radicalement, comme quelqu'un comme Viollet-le-Duc a pu le faire au siècle dernier, comme il l'a fait également pour les murailles de Carcassonne, pour la cathédrale de Strasbourg, ou pour la façade du Palais des Papes à Avignon. Bonne lecture.